Chers et tendres auditeurs, il est 20h. Bienvenue dans Déshabillez-moi, le striptease philosophique de Radio Campus Paris.
Ce que je désire le plus...
Mon désir sexuel ou mon plus grand désir de manière générale?
Je sais pas. Mon désir le plus grand...
Je pense que ce que je désire le plus, je ne le sais pas encore. Sinon, je serais déjà en train de me battre corps et âme pour l'obtenir.
Accomplir mes objectifs professionnels, trouver une situation stable... Et arriver à vivre de mes passions, quoi.
Un métier qui me plaît, voyager, faire un tour du monde, pouvoir m'installer quelque part avec des amis, avoir une maison, un petit jardin et tout ça. Donc ça, mais il y a un grand désir, voilà. C'est plein de petits désirs plutôt qu'un grand désir. Et après, en désir sexuel, qu'est-ce que serait mon plus grand fantasme? J'ai des fantasmes avec des lieux, par exemple. J'aimerais beaucoup, beaucoup pouvoir faire l'amour dans une grotte.
C'est quoi un désir pour toi? Comment tu le définirais ?
C'est découvrir qu'il y a quelque chose ou quelqu'un ou un objet de la pensée ou du monde concret qui existe et qu'on a très envie de le posséder en quelque sorte.
Le désir, je pense que c'est tout ce qui suscite une volonté de la part de quelqu'un, une volonté d'obtenir.
Alors pour moi, dans le désir, il y a quelque chose qui a à voir avec l'instinct, avec quelque chose de très profond, avec nos tripes plutôt qu'avec notre cœur. Et ça n'a rien à voir avec notre cerveau. Il y a plusieurs centres qui génèrent des choses en nous. Et pour moi, le désir, c'est quelque chose qui vient de profond, quoi, des tripes.
Quand quelqu'un éprouve du désir pour quelque chose ou quelqu'un d'autre, je pense que c'est quand il veut se l'approprier d'une quelconque manière.
Enfin, manger, respirer, c'est pas un désir, quoi, c'est un besoin. Donc si on n'a plus que ça, on vit quand même, on est moins heureux, mais on vit quand même. Après, pour être heureux, il faut plus avoir de désir et accomplir plus de désir.
C'est quelque chose qui nous procure un bonheur immédiat et qui a à voir aussi avec le rêve et avec le fantasme.
Je peux comprendre qu'on ait atrocement besoin d'aller se rouler tout nu dans les orties d'aller manger 15 tartines de Nutella. Enfin, après, tout est tolérable. Sauf des choses vraiment, vraiment crades et vraiment illégales. Où on fait du mal aux autres ou à soi-même. Ça aussi, j'ai un petit peu de mal.
Je pense qu'un désir n'est pas... c'est un peu comme un caprice, en fait. Je pense que le désir, c'est plus axé sur des choses qui sont, on va dire, superflues à notre survie, mais qui sont nécessaires à notre bonheur.
Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver.
Ce soir, Déshabillez-moi s'attaque à un sujet brûlant, le désir. Mais, c'est promis, notre invitée Mélanie et moi-même tenterons de déshabiller avec vous le désir avec douceur et précaution. Parce que ces choses-là, c'est fragile, n'est-ce pas Mélanie ?
Tout à fait.
Alors, le désir, c'est quoi ? La philosophie dit relativement peu de choses à propos de l'amour. Quand elle en parle, c'est souvent avec une certaine distance qui confinerait presque à la condescendance. Pour autant, la question de l'amour pose celle du désir, mais ne peut y être réduite. Comment, selon cette perspective, peut-on définir le désir ? Peut-on faire une différence entre une philosophie du désir et une philosophie de l'amour ? Et si oui, quelle différence ? Dès le banquet de Platon, désir et amour semblent se confondre. Si l'on considère le banquet comme une philosophie du désir, émerge immédiatement un autre concept, celui du manque. Dans la conception de Platon, désir et manque sont intimement liés. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de désir. La satisfaction du désir tue le manque et par là même le désir. L'ombre du désir se figure donc dans les notions effrayantes d'insatisfaction, de frustration et de manque. Ainsi, aborder la question du désir rend nécessaire de plonger au cœur d'une position désagréable et inconfortable, mais pour le moins paradoxale. Désirer quelque chose ou quelqu'un n'en reste pas moins une position souhaitable et souhaitée. Mais pourquoi ? Pourquoi le sujet désirant est-il une position recherchée ? Pourquoi vaudrait-il mieux désirer quelque chose ou quelqu'un plutôt que se repaître d'une satisfaction simple et tranquille ? La question se pose, et ce dès l'Antiquité, avec la philosophie d'Épicure par exemple. Épicure développe la doctrine de l'ataraxie qui définit le bonheur comme une absence de troubles et de douleurs. Le secret du bonheur résiderait dans notre capacité à faire la différence entre désir naturel et désir non naturel, désir nécessaire et désir non nécessaire. Pour être heureux donc, il s'agit dès lors de choisir quel désir satisfaire et de ne pas se tromper. Mais quoi qu'il en soit, la question du désir est solidaire de celle du bonheur. Mais alors, comment mettre de l'ordre dans nos désirs? Comment ne pas en devenir les esclaves et comment, chemin faisant, être heureux? Alors, comment être heureux? Mystère. Si la question du désir...
J'ai très envie d'avoir la réponse.
Ouais, bon, on va voir ça. Parce que si la question du désir pose celle du bonheur et du manque, elle n'en pose pas moins, comme je le disais tout à l'heure, celle de l'amour. En philosophie, peut-on réduire l'amour au désir? Certainement pas, nous dit Alain Badiou dans son éloge de l'amour. Dans cet opuscule, Badiou reprend Rimbaud et nous dit « L'amour est à réinventer, on le sait. Mais quid du désir ?» Un des terrains de prédilection de la question du désir se situe au cœur même de la sexualité, dans la logique subtile du rapport sexuel. À ce sujet, Badiou reprend Lacan qui nous explique qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Alors qu'est-ce que veut dire Lacan par là? S'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est car la sexualité ne met pas en relation. Lors d'une relation sexuelle, chaque individu demeure dans sa propre jouissance via la médiation du corps de l'autre. Pas de rapport sexuel donc, mais un rapport avec soi-même par le truchement de l'autre. La relation sexuelle, qui néanmoins n'exclut pas le désir, laisse donc un vide. Et c'est l'amour qui supplée à ce vide. Le désir, lui, s'adresse à l'autre de manière toujours un peu fétichiste. On pense au désir qui s'adresse à des seins, à des fesses, etc. L'amour, quant à lui, s'adresse à l'autre dans son intégralité. Ce qui nous intéresse dans la position philosophique du Badiou, c'est qu'il s'oppose à l'idée que l'amour ne serait qu'une illusion, que l'amour ne serait que l'oripeau du désir. Il s'agit donc de s'opposer à cette idée, rabâchée jusqu'à l'épuisement, qui fait du désir la seule chose réelle. S'opposer à cette idée qui voudrait que l'amour ne soit qu'une construction imaginaire plaquée sur le désir sexuel. Enfin, retenons l'essentiel de la position de Badiou. Le désir sexuel ainsi que son accomplissement sont la preuve matérielle, la preuve liée au corps que l'amour est autre chose qu'une déclaration, autre chose qu'un fait de langage. Je vais quand même citer Badiou et je sais que cet édito
encore
est effroyablement long, mais je vais citer Badiou parce que j'aime bien. Alors, je cite Badiou. Livrer son corps, se déshabiller, être nu pour l'autre, accomplir les gestes immémoriaux, renoncer à toute pudeur, crier, toute cette entrée en scène du corps vaut preuve d'un abandon à l'amour. Dans cette perspective, donc dans la perspective de Badiou, c'est l'amour qui produit les effets du désir et non l'inverse. Mais je ne vous en dirai pas plus. Je ne vous dirai pas quelle philosophie de l'amour propose Alain Badiou parce que, premièrement, notre sujet c'est le désir. Et puis, il faut vous laisser un peu frustré et toujours curieux, enfin désirant. Mais donc, place à notre invité pour tenter d'aborder toutes ces questions et même bien plus encore.
Et vous, déshabillez-vous ?
Alors, on va saluer, on n'a même pas salué notre invité avec cet édito fleuve, cet édito chronique. Désolée, j'avais envie, voilà, je me suis fait un peu plaisir. Donc, on va saluer notre invité. Bonsoir.
Bonsoir, moi je l'ai trouvé très bien à l'édito.
Bah, merci.
Finalement, ça vous a réconcilié avec Alain Badiou un petit peu ou pas?
Non, ça ne m'a réconcilié avec aucun. Je suis absolument d'accord avec aucun de tous ceux que vous avez cités ponctuellement, en tout cas sur ce qu'ils disent. Mais justement, c'est bien.
Bon,
ça va ouvrir le débat.
On ouvre le débat, c'est l'idée. Alors Mélanie, je vais te laisser, d'ailleurs, toi, ouvrir le débat.
D'accord, bah, justement, on peut peut-être commencer par ça. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord donc, avec les philosophes que Anaïs a cités? Est-ce qu'on peut commencer par Platon? Platon,
non, si on le fait dans l'ordre. Non, il faut commencer par Platon,
commençons
bien sûr.
Par Platon.
Il faut commencer par Platon, parce que c'est vraiment depuis Platon, et avec Platon, disons, qu'on porte cette idée que le désir équivaut au manque. Or, tout ce que je crois et pense et développe du désir depuis maintenant pas mal d'années, et du désir en général, pas seulement du désir érotique, même si ces derniers temps j'ai beaucoup réfléchi plus sur le désir érotique, mais ce que Platon prétend, à savoir que le désir est manque, je crois que c'est une erreur fondamentale, qui est fondée sur deux choses, qui est fondée sur le grand problème qu'on retrouve même chez Badiou finalement, à l'autre bout du spectre, c'est de faire cette dichotomie entre le corps et l'esprit et de mettre d'un côté l'amour, qui est de l'ordre spirituel, et de l'autre côté le désir sensuel, ou ce que certains appellent la sexualité, moi je ne sais pas très bien ce que c'est, et de croire que ces deux choses-là sont des domaines partagés. Ça, c'est l'erreur fondamentale. À mon sens, on ne comprend rien au désir et on ne répond rien au désir aujourd'hui si on croit cela.
Donc, dès le départ de la philosophie, finalement, quand on...
Dès le départ, chez Platon, il y a la séparation du corps et de l'esprit et cette nécessité de se tirer de l'entrave du corps pour aller vers le monde des idées.
Donc, déjà, on s'empêche de réfléchir au désir en opposant l'une et l'autre.
Oui, on manque de l'outil pour pouvoir cela. Et puis surtout, je crois que parler du désir comme manque, dans un de mes essais antérieurs, je dis considérer que le désir est un manque, c'est considérer que marcher, et vous savez que dans le mouvement de la marche, il n'y a que du déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on pose le pied et on commence à le soulever. Pendant ce temps, on a l'autre pied en l'air, on va enfin le poser, mais dans un équilibre précaire, et l'autre pied se soulèvera encore pour avancer. Alors, dire que désirer, c'est manquer, c'est équivaut pour moi à dire que marcher, c'est tomber.
Alors, je crois que l'idée de Platon, c'est que quand même, pour qu'il y ait du désir, il faut qu'il y ait du manque. C'est-à-dire que si on ne manque pas de quelque chose, on ne peut pas désirer quelque chose. C'est que la satisfaction, en fait, annihile le désir. Est-ce que vraiment vous pensez que... Tant qu'on ne manque pas, on peut quand même désirer ?
Je dirais que c'est mal se poser la question. Bien entendu que dans le manque, dans le moment du manque, il y a du désir et que si je n'avais aucun manque, je ne désirerais pas. Mais la question, c'est de croire que ces deux notions s'équivalent. Dans le désir, il y a du manque. Il y a un moment du manque. Mm-hmm. Mais il y a aussi dans le désir le moment de sa satisfaction. Et ça fait partie du désir. Cette promesse D'accord. de la satisfaction fait partie du désir. Et enfin, et de surcroît, il y a surtout, dans un temps, un troisième temps, si je puis dire, le renouveau du désir. C'est un manque qui est constamment réactivé. C'est une promesse aussi qui est constamment réactivée. Donc ça ne s'arrête pas à ça. Et dire le désir est un manque, c'est figer quelque chose qui est uniquement une dynamique et qui, en tout cas, va toujours vers son renouvellement et son accomplissement, renouvellement et accomplissement sans cesse. Donc vous voyez, c'est figer quelque chose qui est par essence dynamique.
Donc Mélanie. Vous opposez à ce que dit, enfin, aux théories platoniciennes du désir. Donc quel est pour vous l'auteur qui vous a permis d'entrer en fait dans cette question-là du désir ? Est-ce qu'il y a un auteur référence, un concept référent, une théorie, quelque chose ?
Je dirais plutôt que cela permette d'entrer. Je crois que je l'ai élaborée un petit peu toute seule, cette théorie, sur ma pratique et mon expérience, mais je dois dire que au cours de cette vie, j'ai fait une rencontre intellectuelle qui a été très importante parce que précisément dans le domaine de la philosophie, c'était mon frère, si je puis dire, c'est Robert Misrahi, qui est un philosophe du bonheur d'ailleurs. Ça n'est pas un hasard que le philosophe du bonheur soit aussi un philosophe du désir. Et donc Robert Misrahi, qui est donc un spinoziste de formation, sartrien aussi au départ, a écrit de très nombreux livres sur le bonheur et sur le désir. Et je suis vraiment très très proche de cette pensée. Disons que j'ai toujours considéré qu'il disait en philosophe ce que je disais moi plutôt en littéraire.
D'accord. Et donc qu'est-ce qu'il dit alors ?
Eh bien, il dit que le désir n'est pas un manque, mais que le désir est un accomplissement, une promesse d'accomplissement.
Vous nous avez rapporté un texte donc de Monsieur Misrahi. Je vous laisse nous le lire.
On vous écoute.
Alors voilà, c'est un texte deux petits morceaux d'un livre qui a été publié en 99 et qui reprennent un petit peu ce que je voudrais dire aussi. Aimer quelqu'un, c'est lui parler, mais le sens déborde de ce qui est explicitement exprimé. Voix, gestes, intonations, regards, caresses expriment ce que les mots ne disent pas. La parole ne peut se déployer sans désir, c'est-à-dire mouvement global du sujet humain comme dynamisme et poursuite de l'être et de la joie, exaltation qui comprend et dépasse le désir sexuel. Le désir, comme mouvement général de la conscience, n'est ni pulsion ni mécanisme, mais mouvement intégral du corps et de l'esprit poursuivant sa satisfaction et sa plénitude. Et je vais vous lire un deuxième extrait. L'amour, lorsqu'il est réciproque et intense, est vécu comme un accomplissement. L'accomplissement est à la fois achèvement substantiel et déploiement existentiel de soi. Il est aussi totalisation. Le sujet, en éprouvant la joie de l'accomplissement et de la haute satisfaction de son désir, éprouve en même temps la joie de sa propre plénitude. La chair est accordée à l'esprit. L'érotisme est le consentement donné à l'exaltation ludique des corps et des plaisirs et à la liberté de la chair et des caresses. Le manque est supprimé par la plénitude, par le désir comblé. Cette plénitude dynamique de la chair et du plaisir est en même temps expression et conscience de l'amour de l'autre et de l'amour des deux sujets.
Alors, moi j'ai entendu une phrase assez belle d'ailleurs et qui me semble intéressante dans cet extrait. La chair est accordée à l'esprit. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, sur cette idée ?
C'est une réconciliation finalement entre le corps et l'esprit ?
Oui, mais je pense même qu'au-delà de l'idée de réconciliation, donc nous vivons sur cette idée de la séparation depuis Platon, passant par la pensée chrétienne et jusqu'à aujourd'hui. Là où je crois qu'il y a une sorte d'erreur de la pensée, c'est qu'il n'y a pas non seulement il n'y a pas de dualité, mais c'est parce qu'il n'y a qu'une seule et même chose que j'appelle moi corps-esprit avec un trait d'union. Et je pense que toutes les choses capitales de la vie se passent avec le corps-esprit, pas seulement avec le corps, pas seulement avec l'esprit, que c'est une seule et même chose, et qu'il n'est pas d'esprit qui ne soit incarné, et qu'il n'est pas de chair qui ne soit spirituelle, pour le dire avec des mots un peu grandiloquents peut-être, mais ça me paraît capital. La notion de corps-esprit, aujourd'hui, où nous en sommes de la pensée, je crois que nous pouvons l'accepter et qu'elle nous aide à penser le réel de l'amour, en tout cas.
Anaïs.
C'est vrai qu'on est dans une pensée française, à vrai dire. On pense souvent ce dualisme corps-âme, ce dualisme corps-esprit, notamment avec la pensée de Descartes en philosophie.
Bien sûr, il y a tout le christianisme aussi qui est forcément passé par là.
Donc est-ce que finalement c'est un des enjeux du siècle, peut-être, de réconcilier le corps et l'esprit ?
Oui, je le crois vraiment. Ah oui, pour moi c'est capital. Et pour la pensée, et pour notre vie, pour notre existence. Parce que si on cesse de les séparer, on cesse de les hiérarchiser. Et c'est aussi important ça, de ne pas considérer que le corps n'est que notre pauvre véhicule et qu'on va vivre avec lui, malgré lui, dans lui, qu'on va essayer de répondre à ses pulsions, parce qu'un corps ça peut avoir guère que des pulsions, n'est-ce pas ? Etc, etc. Donc là, il y a une dignité du corps-esprit qui est à conquérir, bien sûr, encore et encore.
Vous aviez dit tout à l'heure que c'était par l'expérience finalement que vous aviez commencé à entrer dans cette question-là du désir. Donc finalement, utiliser l'expérience et le corps, le vécu, pour le construire une théorie, une réflexion sur le désir, c'est finalement aussi passer par une réconciliation entre le ressenti, le corps et l'esprit et l'intellect.
Absolument, vous avez raison, c'est tout à fait ça.
Comment ça s'est passé ? Alors comment vous êtes entré ? Pourquoi cette question-là vous a interpellé, intéressé ?
Pour deux raisons. L'une qui est peut-être plus obscure, c'est que j'ai été élevée comme cela, avec cette sorte de conception de la dignité du corps. C'est important. Et en même temps, une incitation à me servir de mon esprit autant que je le pouvais. Et je crois aussi que c'est parce que j'ai beaucoup pensé au désir que je suis arrivée à formaliser cette idée du corps-esprit. Et quand je dis le désir, ce dont je veux parler, ça n'est pas seulement le désir sensuel. Il se trouve donc que ces derniers temps, je m'intéresse beaucoup à ça, parce que je crois que ça pose aussi la question de l'amour, dont on n'a pas encore parlé.
Dont on parlera tout à l'heure.
On parlera tout à l'heure. Mais
on va y venir, c'est important l'amour.
Et bien sûr. Mais je crois que tout simplement, étant donné ce que je suis, mon histoire, j'ai toujours été fascinée depuis vraiment très longtemps par le désir en tant qu'il est ce dynamisme de l'existence. Pour le dire de la façon la plus concrète possible, j'ai toujours été fascinée par le fait que le matin, on ait envie de se lever. Mais oui, on pourrait...
On a envie de se lever le matin ? C'est une bonne question.
Parfois pour rien. Certaines journées sont absolument palpitantes. Par exemple, aujourd'hui, vous saviez que vous alliez m'interviewer, donc ce matin, forcément, vous étiez en joie. Mais certains matins, vous allez juste faire des partiels. Hein. Et donc, certains jours, on n'a pas de raison d'être joyeux, mais pourtant, on est pris dans ce mouvement, dans cet élan qui fait qu'on a envie de vivre la journée qui est en face de nous. Si jamais vous avez connu de vagues phases dépressives, vous savez que, par l'inverse, vous savez très bien que ce désir n'est pas donné. Je veux dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un petit miracle quotidien dans le fait qu'on ait cette envie de se lever. Pour moi, ça, c'est bête à vous dire, jusqu'à la fin de mes jours, ça restera fascinant. Par quel miracle, par quelle grâce on a en soi cette envie de se lever ? Et qu'est-ce que c'est ? Alors vous voyez, moi je pars de là, de cette raison vraiment la plus bête et la plus tôt dans la journée, c'est pourquoi j'ai envie de me lever ce matin et pourquoi je suis joyeuse. J'aime le matin, de surcroît, j'aime me lever.
L'odeur du café.
Pas spécialement tôt, mais j'aime ce mouvement-là qui me tire du lit, qui me met au travail, etc. Donc cette interrogation sur l'envie de se lever, c'est, pour moi elle est capitale. Dans tout ce que j'écris, au fond, elle est première. Donc c'est comme ça que j'en arrive à la question du désir, si vous voulez, à partir de ce désir très large que j'appelle le désir général d'exister.
D'accord. On a parlé un peu de philosophie, mais on va parler un peu de littérature aussi, puisque les auditeurs l'auront compris, on l'a déjà dévoilé, vous êtes plutôt vous, du côté de la littérature. Qu'est-ce que la littérature apporte à cette compréhension du désir? Est-ce qu'elle apporte autre chose que la philosophie? Est-ce que par le biais d'un personnage, on arrive à raconter d'autres choses, à parler mieux du désir que par le biais de concepts philosophiques?
Écoutez, je ne dirais pas mieux, parce que c'est une concurrence qui n'a pas beaucoup de sens. J'aurais pu être philosophe, j'écris pas mal d'essais qui tirent vers la philo aussi, mais je crois que je trouve que la littérature a des pouvoirs qui m'intéressent plus. Et notamment, elle a le pouvoir de dire des choses ambiguës, ambivalentes. Elle a le pouvoir d'approcher des zones plus ombreuses que la philo, je crois. Et voilà, et je pourrais développer plus longuement encore ce que je... Mais enfin, pour le dire aussi de façon un peu plus peut-être concrète, je crois que la littérature permet de vivre l'expérience de l'auteur et pas seulement de la pensée. Et c'est là qu'on retrouve peut-être le corps-esprit. La littérature permet des expériences du corps-esprit, alors que la philo ne permet d'expériences, je crois, que de l'esprit.
C'est-à-dire qu'il y a une identification de lecteur dans le personnage, quelque part.
On peut dire ça comme ça, oui.
C'était « Sous le soleil exactement » d'Anna Karina.
Déshabillez-moi. pas de caresses vagas, Alexandre, mais qu'est-ce que vous croyez? En tripotant les seins d'une femme ou son sexe, mais qu'est-ce que vous croyez? Enfin, en ce qui me concerne, c'est pas ça du tout. Et je vous aime. Et je le dis devant mon mari. Votre sexe. Regarde-le comme il a un super complexe avec son sexe. Votre sexe, Alexandre, tu me fais tant jouir. Votre sexe, Alexandre, n'a pour moi aucune importance.
C'était un petit extrait de La maman et la putain. Votre sexe, Alexandre, n'a aucun sens, aucun intérêt. C'est plutôt l'amour qui l'intéresse. Est-ce qu'on doit faire une distinction, Belinda, entre l'amour et le désir?
Tel que nous sommes partis, tel que je suis partie, vous avez compris, vous devinez que, évidemment, je n'en fais aucune. Et je pense que c'est même tout un, ce mouvement qui nous porte vers un autre, qui nous porte tout entier, c'est-à-dire corps-esprit, vers un autre corps-esprit, et qui nous donne le désir de le rencontrer et de vivre ensemble quelque chose, de partager quelque chose. Mais là aussi, je crois que pas plus que dans d'autres moments de la vie que j'évoquais tout à l'heure, on ne peut séparer ce qui arrive au corps et ce qui arrive à l'esprit.
D'accord, donc ce sont deux corps-esprit qui se rencontrent, l'amour. Donc il y a toujours ce désir qui est créé par l'être extérieur, par un objet
par
ou...
Par un autre.
Par un autre. Donc est-ce que pour vous, le désir est toujours causé forcément par un objet extérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà de désirant à l'intérieur de nous, avant même de rencontrer cette autre personne? Et est-ce que désirer, c'est forcément toujours sortir de soi ou pas du tout?
Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a en nous du désir, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure finalement, hein, ce désir de se lever qui nous meut dès le matin, évidemment, trouve aussi une de ses expressions, et à mon sens la plus belle, et la plus concentrée, et la plus brûlante, dans le désir sensuel. Pour moi, le désir sensuel, c'est une sorte de métonymie du désir général d'exister, mais poussé à son incandescence. Donc, nous avons en nous cette disposition cette disposition à désirer, mais elle reste inerte tant qu'on n'a pas en face de soi le corps-esprit qui peut la susciter, la développer, la permettre qu'elle se déploie. Et ça, c'est un grand mystère et une grande aventure que de trouver en face de soi ce corps-esprit qui va éveiller notre désir.
Ça, cette idée de flamme qui anime quelque chose en la personne qui rencontre l'être aimé. Est-ce que dans cette relation donc, entre deux corps-esprits, il y a une idée de possession, être objet du désir, être sujet du désir?
Je crois, alors là je vais un peu plus bricoler, il me semble que dans le désir très avif tel qu'on peut le connaître pendant un certain temps, reste à savoir combien, mais pendant un certain temps à l'égard d'un autre corps-esprit, je crois qu'à ce moment-là, si le désir est vraiment puissant, il est un peu exclusif, non par morale ou par je ne sais quelle règle qui nous tomberait comme ça extérieurement, qui tomberait sur nous, mais je crois tout simplement que quand on est vraiment plein de l'autre, on n'a pas tellement la place pour désirer quelqu'un d'autre. Alors en ce sens, ça peut avoir l'air d'être de la possession, mais je crois que ce n'est pas ça qui est en jeu. C'est qu'il y a un moment où les choses sont trop brûlantes pour qu'il y ait la place pour un tiers.
Anaïs?
Alors vous disiez justement quand on est plein de l'autre. Donc on revient toujours à cette question du manque finalement. Parce que être dans le désir, est-ce que c'est être plein de l'autre ou est-ce que ça laisse quand même cette place dont on parlait tout à l'heure au manque et justement à l'idée qu'on ne serait pas plein de l'autre même en étant dans une relation forte avec quelqu'un?
Si on n'est pas plein de l'autre, ça arrive très souvent, c'est même peut-être le cas le plus banal de nos relations avec autrui. Si on n'est pas plein de l'autre, ben oui, il y a de la place pour, ben d'abord il y a de la place pour des tiers. Et puis voilà, mais pourquoi à nouveau parler du manque là? Je ne vois pas.
Mais si, parce que je voulais dire, vous disiez quand on est plein de l'autre, pour qu'on puisse continuer à désirer l'autre finalement, je ne parlais pas du tout du désir extérieur, je parlais du désir dans la relation exclusive finalement. Quand on est plein de l'autre, comment on fait justement pour continuer à désirer l'autre quand on est plein de
lui? Toi, tu veux des petits secrets pour faire durer ton couple, c'est ça?
Exactement, merci de m'avoir percé à jour.
Non, mais je crois que ce que vous dites, écoutez-vous, quand on est plein de l'autre, on est plein et en même temps, on n'a qu'un souhait, c'est de recommencer, de prolonger, de rencontrer à nouveau l'autre. Et dans la petite satisfaction du corps et dans la fatigue peut-être qui survient après l'étreinte, vous savez très bien que ça n'est qu'une affaire de repos et que tout à l'heure, ça recommencera. Donc quelque chose n'est pas épuisé par la satisfaction, c'est pas vrai. Et je vous dirais aussi autre chose. Revenons à des expériences. Moi, j'aime beaucoup. Je suis phénoménologue au petit pied. Revenons à des expériences de base. Quand je suis en manque de nourriture et que j'ai faim, je déteste avoir faim. Pour moi, par exemple, je déteste avoir faim. C'est un sentiment de souffrance et je préfère vite me précipiter et manger. Quand j'ai envie de l'autre, je ne suis pas du tout dans la souffrance. Je suis au contraire dans une joie et dans une exaltation dont je connais peu d'exemples dans le reste de ma vie. C'est-à-dire que le désir de l'autre est une chose qui nous rend joyeux, alors que le manque pur de nourriture, d'eau ou de ce que vous voulez, ou de mouvement, ne nous rend pas joyeux, il nous rend triste. Or, le désir nous rend heureux et nous donne, je dirais même à l'inverse, un sentiment, ça c'est une des choses fascinantes du désir, on a un sentiment de complétude de notre être dans le désir, qu'on a rarement dans la vie ordinaire quand, soi-disant, on ne manque pas. Pensez-y à ça. Combien on se sent plein et riche quand on est dans le désir. Alors, comment un manque pourrait nous rendre plein et riche?
En fait, il y a une distinction qu'on n'a pas faite, c'est celle entre le désir et le besoin, finalement. Puisque là, c'est quelque chose, ce que vous venez de dire sur la question de la nourriture, de la soif, on est dans le besoin, on n'est plus dans le désir. Est-ce qu'on peut réfléchir un petit peu à cette distinction? Quelle distinction vous feriez entre le désir et le besoin?
Bien justement, vous avez tout à fait raison de l'établir. Ce dont j'ai parlé, et là où il y a des manques, c'est dans le besoin. Alors certainement, l'activité sexuelle relève partiellement, de ce besoin. Les êtres humains, les êtres vivants à peu près supérieurs, et même d'autres, enfin les paramécies, je ne sais pas. Mais pour les êtres vivants, en tout cas, il existe quelque chose qui est de l'ordre du besoin sexuel. Je crois que ça n'est qu'une très petite partie de ce que nous appelons ici le désir. Et je crois surtout que autant le besoin est solipsiste, il renvoie à soi-même et à la satisfaction de ce qui nous manque, donc minuscule partie de nous-mêmes, le désir, lui, est toujours adressé. Il est toujours désir d'un autre. C'est pour ça que je le dis, grande valeur philosophique. Le désir, c'est l'assomption de l'autre. Je désire toi et seulement toi, pour l'instant. Hein, je ne me prononce pas, on n'en a toujours pas parlé, je ne me prononce pas sur l'amour et la durée là. Mais je dis que le désir, c'est l'élection d'un autre. C'est celui-là, on le sait bien, celui-là ou celle-là qu'on a choisi, qu'on a voulu. Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est un peu exclusif et qui exclut tous les autres. Donc dans le désir, il y a l'élection d'un autre et ça me paraît un élément capital.
Bien justement, on va parler de cette question de la durée un petit peu. Comment on fait durer ? Enfin, il y a cette question de, il faut faire durer le désir. Il faudrait, dans une relation, pour que l'amour continue, faire durer les choses, faire durer ce désir. Est-ce que le désir, pardon, est relié nécessairement à cette question de durée et à cette question de faire durer les choses ?
Alors là, je serais peut-être un peu en désaccord avec tout le monde, mais je ne crois pas. Je crois que par nature, pour des raisons que j'ignore, mais que le désir est périssable. C'est une vieille expérience, elle est vieille comme le monde. Et
comme les fleurs de Jacques Brel.
Voilà. Le désir est périssable. Et vouloir le faire durer, pourquoi aujourd'hui veut-on le faire durer? Là, c'est toute une conception de l'amour, je crois.
Parce qu'on prend des crédits sur 30 ans.
Voilà, et parce qu'on fait des enfants. Pour le dire un peu rapidement, je crois qu'on a fondé nos raisons de faire couple pendant longtemps sur des mariages arrangés, nous le savons bien. Et puis, depuis, en gros, allez, disons le 19e siècle, on est passé dans cette deuxième ère des raisons de faire couple, qui est ce que les sociologues appellent l'amour romantique. Hein, on se marie, on fait couple, disons, parce qu'on aime, de cet amour romantique. Et puis arrive le 20e siècle. Avec le 20e siècle, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la promotion du désir sensuel. Hein, c'est Freud qui introduit le désir comme élément capital de construction de la psyché. Et puis, c'est donc tout le développement du XXe siècle, y compris l'émancipation des femmes, qui est très importante dans toute cette affaire comme élément, qui fait que nous voilà arrivés à ce début du XXIe siècle avec la volonté toujours de l'amour, et pour cause, et elle sera toujours là, cette volonté de l'amour, mais fondée sur une représentation du couple qui remonte à Tristan et Iseult, pour aller un peu vite, et tant pis s'il a été réécrit, qui remonte à cette idée que l'amour, c'est forcément pour toujours. Et là, je crois que tant qu'on n'est pas sorti, et on n'y est pas, hein, aucun d'entre nous, tant qu'on ne sera pas sorti de cette idée que l'amour, c'est pour toujours, on sera très embarrassé parce qu'on se retrouvera dans des couples dont on estime normal, dans nos représentations, qu'ils durent toute une vie, avec par ailleurs cette espèce de promotion très récente du désir qui, lui, s'en va. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est que ces couples où on a d'un côté la représentation de l'amour pour toujours et de l'autre côté l'idée que le désir c'est la plus belle chose du monde ? Et c'est pas moi qui le dis, n'importe quel kiosque de journaux là vous dit comment garder le désir, le susciter, etc. Donc si vous voulez, à mon sens, on est dans un moment de transition où on se heurte en nous, en chacun de nous, cette idée que l'amour c'est pour toujours et que par ailleurs le désir c'est la meilleure chose du monde et c'est ce qui doit nourrir le couple.
Analyse.
Mais alors là, donc on retrouve un peu cette opposition qui pose problème, qui est peut-être le fond même du problème du désir, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment faire la différence entre l'amour et le désir ? Et si oui, est-ce que cette différence, elle va nourrir l'idée de couple ou est-ce qu'au contraire, elle va travailler à la destruction de l'idée de couple ?
Si vous permettez, je dirais ni l'un ni l'autre. Chez les Grecs, on a déjà deux notions qui peuvent nous servir concernant l'amour. On a Eros et Philia. Et dans Eros, c'est, disons, l'amour tel que nous le connaissons, dans sa vivacité, son désir, ce dont on a parlé jusqu'à présent. Jusque-là, pas de problème. Et ce désir-là, qui passe par Eros, il a existé, il existera, on y est pour toujours. Ensuite, il y a une deuxième forme d'amour, que les Grecs appellent philia, et qui est l'amour qu'on a pour le frère, la sœur, les enfants, etc. Cet amour-là qui n'inclut pas la dimension érotique. Je crois que là, l'évolution naturelle d'un couple, ou quasiment, c'est de passer de l'amour éros à l'amour philia. Et quand on se retrouve dans l'amour philia, qui est l'amour des vieux couples, des couples, je dis vieux, ça peut être assez rapide, hein, eh bien, tout à coup, est en nous disponible l'amour selon Eros et on ne sait plus quoi faire.
One more cup of coffee before I go.
C'était One More Cup of Coffee de Bob Dylan du très très grand album Desire.
Déshabillez-moi.
Ce choix des chansons, Anaïs.
Oui, toujours.
Donc on va continuer un petit peu sur cette question-là du renoncement finalement à la durée d'un couple. Donc, je pense que ça va choquer quelques-uns de nos auditeurs. Ça fait un peu peur quand même, parce que ça veut dire qu'on doit arrêter de penser, de croire au prince charmant quelque part, qu'on doit arrêter de penser à un couple qui durerait pour toute la vie, ce dont on a encore un peu envie. Et moi, je me suis posé la question, justement, en vous écoutant, de savoir si... Est-ce qu'il y a une différence entre le désir masculin et le désir féminin ? On oppose souvent les deux en disant que les hommes ont des désirs plus nombreux, plus forts, qui les obligeraient à aller voir ailleurs, etc. Alors que les femmes, elles, seraient moins désireuses quelque part. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça?
Vous voulez pas qu'on fasse 3 ou 4 émissions sur
avec pas plaisir, de problème avec plaisir.
Non, mais pour répondre brièvement, je pourrais en parler aussi. Je veux dire, c'est un des sujets qui m'a beaucoup intéressée. Je suis féministe et la question des femmes et des hommes m'intéresse beaucoup. Mais pour répondre brièvement, je crois que oui, aujourd'hui, les hommes et les femmes n'ont pas exactement les mêmes désirs concernant la durée, la sexualité, etc. Parce que voilà, nous sommes construits, nous sommes éduqués pour considérer les choses différemment. Donc voilà, je répondrai oui, oui, bien sûr, c'est vrai, il y a des différences. Je voudrais juste pas qu'on en conclue qu'elles sont inscrites dans le marbre de nos identités, voilà.
Dans la biologie.
Voilà, pas du tout. Moi, je crois qu'on est absolument construit de cette façon-là. Alors oui, il y a ce fameux, les femmes voudraient que ça dure toujours et les hommes seraient peut-être un peu plus consommateurs. Bon, moi, je n'ai pas observé ça dans le réel. Je m'aperçois que les hommes sont capables de rester dans des couples absolument bancals encore plus longtemps que les femmes. Et d'ailleurs, je crois que statistiquement, on dit qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui s'en vont plutôt, qui sortent des couples. Je n'ai pas de réponse prête. Moi aussi, je trouve ça angoissant. Je suis construite, comme tout le monde, sur l'amour pour toujours. Et sur cette idée que si on fait couple, c'est pour toujours. Et que si le couple cesse, c'est un échec. C'est là qu'on commence à toucher du doigt le problème. C'est-à-dire, si on considère que c'est un échec, alors vraiment, c'est très compliqué. Mais si jamais on considère que la pérennité du couple n'est pas une notion normale, naturelle et inévitable, et que peut-être la séparation et le renouvellement des couples plusieurs fois dans une vie, je n'ai aucun nombre à vous proposer, mais si on considère que le renouvellement du couple... c'est la respiration naturelle de la vie amoureuse et que donc se séparer, ça n'est pas un échec, c'est juste à un moment donné, on a épuisé ce qu'on pouvait faire ensemble, peut-être qu'on trouvera des solutions. On n'en est pas là. Pour l'instant, arrêter le couple pour toujours, arrêter le couple au nom de l'amour pour toujours, c'est un échec. Donc on est vraiment très embarrassé. Mais ça peut changer, ça. Et je pense, c'est pour ça que je dis qu'on est dans une période de transition. Je pense que ça va changer, parce que les faits devant nous sont là. Il y a autant de mariages que de divorces aujourd'hui, ce qui est quand même un chiffre énorme. Mmh. Et on voit de plus en plus que les gens font des couples variés au cours de leur vie. Il est possible, premièrement, que ce soit ça l'avenir. Ça, j'en suis même assez intimement persuadée, qu'on fera des couples provisoires. Et tant pis pour Tristan et Iseut. Et je pense... Et
moi,
je
ça
pense
me déprime un peu quand même.
Eh bien, je sais, parce que nous en sommes tous là, dans ces représentations anciennes. On s'aime pour toujours. Ben oui, si on s'aime pour toujours, ça veut dire qu'on fait une croix sur l'amour éros, l'amour désir. Et ça, c'est, moi, ça me paraît encore plus triste, peut-être, que de renoncer à l'amour pour toujours.
Donc il faudrait ne pas combattre finalement le désir de l'autre, même si on est déjà dans un couple. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de désir dans un couple, si on a un désir vers l'autre, on peut se laisser aller au désir de l'autre et à assouvir ce désir.
Vous voulez dire d'un tiers ?
Voilà.
Si vous permettez, je ne prendrai pas position sur cette question parce que non, là-dessus, ça, tous ces aménagements, ils sont vieux comme le monde aussi. Hein, c'est-à-dire, ben, dans le couple, on s'ennuie un petit peu, donc on va chercher ailleurs autre chose. Je n'ai ni du bien ni du mal, je dis que c'est une solution un peu bancale et je ne vois pas pourquoi elle durerait.
A priori, enfin, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, selon vous, d'accepter cette idée d'un couple qui ne dure pas toujours ? Est-ce qu'il y a des obstacles vraiment importants à cette idée ?
Je crois que les obstacles, c'est ce qu'on appelle les représentations. Et que les représentations, c'est un élément très structurant de la société, très structurant, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et voilà, donc nos représentations vont dans le sens de l'amour pour toujours. Encore une fois, je pense que Tristan et Iseut, avec ces deux amoureux qui boivent un filtre, qui les lient pour toujours jusqu'à la fin de leur vie, il faut quand même le filtre, mais bon, je crois que ça, c'est une histoire vraiment qui est structurante de nos imaginaires. Et tant qu'on a cela en tête, alors tout le reste paraît une déperdition.
Café nommé Désir, avec cette voix masculine très, très sensuelle.
Chaleureuse.
Chaleureuse. Couleur café, c'est ça. On vient d'entendre une publicité. Normalement, on n'est pas censé passer de la publicité sur cette antenne. Mais pour Carte Noire, un café nommé Désir, on a l'impression donc que le plaisir, le désir sensuel, sexuel, peut servir aussi à vendre des produits qui n'ont rien de sensuel et de sexuel, du café, qui lui est plutôt du côté du besoin. Donc on revient un peu dans cette distinction entre le besoin et le désir. Moi, j'ai une question à vous poser, Belinda. Est-ce qu'on peut tout désirer? C'est une question bizarre.
Ben là, vous touchez du doigt quelque chose, je crois, qui me permet d'ajouter, après tout ce que je viens de dire, que évidemment, la consommation de tous ordres, y compris sexuels, ne m'intéresse pas une minute. Un café nommé désir, c'est vraiment le contraire de l'élection dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, le grand désir, c'est le seul qui m'intéresse, le reste, c'est du bricolage. Alors peut-être qu'à 16 ans, on est content de consommer, parce qu'on a tellement de choses à découvrir, mais plus le temps passe, plus ce qu'on veut, c'est l'intensité. Le maître mot, c'est l'intensité. Et l'intensité, on l'a jamais eu dans la consommation, c'est pas vrai. Donc, le désir dont je parle n'est pas un désir de consommation. Le fait que la consommation se serve du thème du désir, d'ailleurs, dit bien un des problèmes de notre époque, où on ne donne pas sa place au désir. C'est pas vrai. C'est contre le désir, ce qu'on vient d'entendre.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est la consommation. C'est la petite chose. On peut désirer du café, des croquettes, aller au sport d'hiver, un nouvel iPod. C'est pas ça, le désir. Le désir qui se trans... Oui, parce que parfois, je me prends pour un chat. Le désir qui se transporte de l'être, ce déploiement de l'être, et cette élection d'un autre, ce choix d'un autre, etc., ça n'a aucun rapport avec ces petites envies, parce que ce sont des envies et pas des désirs, dont parle la publicité.
Finalement, c'est dans le couple qu'on reviendrait à un désir intense, puisque le désir devient plus intense quand il est réalisé quelque part avec quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on connaît de mieux en mieux, donc ce désir à deux. Donc est-ce que forcément, donc, voilà, j'ai l'impression que cette notion de désir et d'intensité, elle se retrouve forcément dans l'expérience aussi, dans le fait de grandir, de vieillir, d'apprendre les choses. Est-ce que je me trompe en disant cela?
C'est-à-dire, si vous me permettez, ça m'embête beaucoup de vous dire ça, mais je pense que là, il y a une question d'âge.
Oui, mais c'est justement la question que j'ai... Non, mais c'est vrai, c'est une question que j'avais envie de vous poser.
Non, parce que c'est bête et vraiment, c'est pas ma position de surplomb ou de je sais pas quoi.
C'est une question que je voulais vous poser.
À l'usage, et ça, on peut faire ce qu'on veut. À votre âge où il n'y a peut-être pas assez d'usage, vous verrez que le désir s'épuise. Et on peut raconter tout ce qu'on veut. Pour 90% des gens, je pense, je n'ai pas fait de statistiques, le désir s'épuise. Et donc, dans le même couple, l'amour peut se renforcer, mais le désir, en revanche, lui, il va au contraire s'épuiser. Et je pense, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être qui est important, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ça n'est pas tellement le désir érotique qui est la difficulté à penser pour nous, le désir sous Eros, hein, le désir d'Eros. C'est pas ça la difficulté à penser pour nous. C'est l'amour philia qui est difficile à penser. L'amour philia, on ne l'a pensé que dans le cadre du couple conjugal. Et si on imaginait que ça pouvait être ailleurs, autrement? Moi, j'aime beaucoup les hommes avec qui j'ai vécu. Je les aime encore aujourd'hui, je les aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Et simplement, j'ai plus envie de faire l'amour avec eux. Donc, il y a quelque chose. Paradoxalement, c'est une idée qui m'est venue assez récemment, mais je crois que finalement, là où on a une difficulté à penser, c'est pas tellement l'amour Eros, parce que celui-là, on le connaît et on sait ce que c'est. C'est l'amour philia. C'est qu'est-ce qu'on va faire de l'amour qu'on a eu, qui a été un amour érotique et qui est devenu cet amour tendre qu'on a encore. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ?
Alors, est-ce que justement, on pourrait penser que cet amour tendre, il est capable de créer des projets, qu'il est capable de s'investir et de faire en sorte justement que les deux personnes qui ne sont plus en couple soient justement capables de créer encore des choses ensemble ? Est-ce qu'il y a un moyen de transformer finalement cet amour filia ?
Moi, je pense. Je pense que c'est même dans ce sens-là qu'il y aura des transformations qui vont nous étonner. C'est-à-dire qu'on s'apercevra que du coup, vivre, cesser d'aimer Eros, quelqu'un, ça ne veut pas dire le perdre, ça ne veut pas dire ne plus rien faire, etc. etc. Tu vois, l'invention qu'on a à faire dans les temps à venir, à mon sens, ça sera sur Philia qu'il faudra le faire porter, et on sera étonné. Mais je n'ai pas d'idée de à quoi ça ressemblera, mais c'est là que ça sera étonnant, ce qu'on va inventer.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'économiser, finalement, de faire l'économie de penser et de souffrir, peut-être de souffrir de la séparation et de la perte de l'objet, parce que c'est un vrai problème. Moi, je pense que c'est un problème sociétal, c'est pas seulement un problème psychique, intrapsychique. Bon, c'est un problème en tout cas intrapsychique qu'on est nombreux à partager en ce moment. C'est comment faire face aux séparations, comment accepter la perte de l'objet, comment vivre avec. Parce qu'on doit penser la perte de l'objet comme un objet définitivement perdu. Là, avec ce que vous êtes en train de dire, on ne pense plus l'objet comme définitivement perdu, mais on pense la transformation. Rien ne se perd, tout se transforme.
Bravo, c'est exactement ça.
Yes, je vais peut-être m'en sortir, moi. Désolée.
When she woke up late in the morning light, and the day had just begun, she opened up her eyes and said, oh, what a morning. It's not a day for work, it's a day for catching them, just lying on the beach and having fun. She's going to get ya.
Cléa Vincent, All That She Wants.
Déshabillez-moi.
Et on passe tout de suite à l'entretien psy avec Mélanie.
Oui, pardon, j'allais dire, il est l'heure de dévoiler qui est notre invité. Bah, d'abord, on va vous poser quelques petites questions. Ça va être un peu difficile, mais c'est pas grave, ça va passer vite. Qu'est-ce que vous avez désiré le plus dans votre vie ? Quel est le plus gros désir, le plus grand désir que vous ayez ressenti ?
J'en ai deux. J'en ai un qui m'accompagne de façon constante depuis que j'ai 12 ans.
Qui est ?
D'écrire.
D'accord.
C'est un désir très puissant, parce qu'il, au sens où il subordonne les autres désirs à celui-là. Et puis, il y en a un autre qui est le plus vif, le plus intense et tout aussi indispensable, mais qui se manifeste un peu autrement dans le temps, c'est le désir des hommes. J'aime les hommes.
Vous avez bien raison de le dire. Quelle a été votre plus grande frustration pardon, face à un désir inassouvi? S'il y a eu frustration un jour,
bah, désir disons inassouvi. Que dans le désir, il y a des gens qui ne vous désirent plus, vous, des hommes qui ne vous désirent plus, vous, à un moment donné, ou bien qui, bref, on se sépare. C'est plutôt ça. La plus grande souffrance, en tout cas, que j'ai eue, c'était liée à des pertes amoureuses.
D'accord. Est-ce que vous écoutez toujours vos désirs ou est-ce que vous essayez parfois de les réfréner?
Ah non, jamais réfréner. Non pas que je fasse n'importe quoi du tout, mais justement, comme je vous l'ai dit, je hiérarchise beaucoup. C'est-à-dire que je sais ce qui me tient le plus à cœur, et disons que je peux réfréner un petit désir au nom d'un plus grand. J'ai fait beaucoup de sacrifices, par exemple, si je puis dire, des renonciations plutôt, pour mon désir d'écrire. J'ai organisé ma vie pour pouvoir écrire. Ça veut dire du temps, etc. Et donc, pour ça, j'ai dû renoncer à des petites choses qui se passaient, qui surgissaient en cours de route.
Donc, une sorte de hiérarchisation, finalement, des désirs, oui, quelque part.
Oui, je sais quels sont mes vrais désirs.
Anaïs.
Alors, moi, j'aimerais savoir comment on fait pour faire en sorte de pouvoir écrire dans sa vie. Qu'est-ce qu'on fait, concrètement?
Ah. Avant, il y avait le conseil de couple, maintenant c'est le conseil pour devenir écrivain.
Conseil de vie, on a bien fait de faire cette émission.
Écoutez, là, ce serait aussi une longue affaire à y répondre, mais je peux vous dire que pour pouvoir écrire, j'ai organisé ma vie de façon à ce que tous les matins, j'ai plusieurs heures pour écrire, 365 jours par an. Concluez-en le reste.
D'accord, merci. Pardon, on reprend l'entretien psy.
Est-ce que vous avez des désirs que vous ne pouvez pas vous expliquer?
Le seul vrai mystère, je crois, dans les désirs... Non, mais est-ce qu'on peut expliquer un désir quelconque? J'en suis pas sûre.
Est-ce qu'il y a des désirs que ressentent autrui, qu'éprouvent autrui, que vous ne comprenez pas?
Ah oui.
Par exemple?
Le désir de blesser, la violence, tout ce qui est de l'ordre de la violence, c'est la raison pour laquelle j'écris d'ailleurs. Je ne peux tellement pas comprendre un certain nombre de choses que pour les endurer, il faut que je me les explique, que je les observe et que je les raconte.
Très bien, merci beaucoup. Anaïs, je te laisse dévoiler qui est notre invitée.
Alors, notre invitée est Belinda Cannon, qui est romancière, essayiste et également enseignante en littérature à l'université de Caen. Le 27 mars, il est utile de le dire, le 27 mars 2012, Belinda Cannon est nommée chevalier de l'Ordre National de la Légion d'honneur.
Non, vous vouliez pas en parler?
Ah, non, pardon. Ah bah quand même. Ah, non, mais moi je sais pas, vous l'avez cette distinction. Maintenant, faut l'assumer. Et alors juste nous, on a utilisé un livre pour préparer cette émission que vous avez publié en 2013, qui est Petit éloge du désir, qui est publié aux éditions Folio à 2 euros les éditions de poche. Voilà. Est-ce que vous voulez parler d'un autre de vos livres qui va sortir peut-être bientôt ou...
Non, j'aurais pu parler du premier essai libre, comme je les appelle, que j'ai écrit en 2000. Ouais. Et c'était L'écriture du désir.
Chez Calmont Lévy.
Voilà, et maintenant qui est en folio. Donc, qui est un livre où j'interroge à la fois le désir de vivre et la littérature.
Eh bien, Belinda Cannon, merci beaucoup d'être venue à cette émission qui était fort intéressante, je trouve.
Tout à fait. Bon, on vous reverra donc dans un mois, puis dans le mois suivant, puis les 3 prochaines années pour les prochaines émissions.
Voilà,
prochaines
exactement. Émissions.
Merci Mélanie de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à Charlène d'avoir réalisé. Merci beaucoup Charlène. Et nous, on se dit à dans un mois pour un autre numéro de Déshabillez-moi.